Vous vous rappelez qu'on a étudié ensemble le sermon que Jésus a prêché sur la montagne, près de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Et jusqu'à la semaine passée avec Célestin au Fouet, on a vu des paroles remarquables de Jésus qui rappellent l'importance de son enseignement comme étant une fondation solide pour la vie chrétienne. Et c'est faisant confiance à la parole de Jésus que nous nous tournons vers l'étude de la Bible, qui est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et Jésus a terminé son sermon sur la montagne, et maintenant, Luc, l'évangéliste, nous raconte les événements qui suivent son sermon. Et il y a trois événements qu'il juxtapose, parce qu'ils se passent, les trois, dans l'espace de 2 jours. Donc, après que Jésus ait terminé son sermon et qu'il s'en va à Capernaum, il arrive 3 événements, à l'intérieur d'une période de 2 jours. Je vous invite à lire ces événements avec moi dans Luc, chapitre 7, l'Évangile de Luc, au chapitre 7. On va lire les versets 1 à 23. Luc 7, verset 1. « Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Et il entendit parler de Jésus. » Et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante, en disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » Et c'est même lui qui a bâti notre synagogue. Jésus s'en alla donc avec eux, et il n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine. » car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et il se tourna vers la foule qui le suivait et il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Et ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, et il eut compassion d'elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit, et il se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, et ils disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous. » Et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans toute la Judée, tout entière, et dans tous les environs. Les disciples de Jean, Jean-Baptiste, lui annoncèrent tout cela. Et Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Donc, arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Et il leur répondit, « Allez porter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Donc, après ses discours, Jésus part, il se rend à Capernaum. C'est une ville qui est près de la mer, sur la côte de la mer de Galilée. Donc, j'imagine que c'était près, peut-être la première ville qu'il a rencontrée en partant de la montagne où il a livré son sermon. Et là, il vivait un centenier. Certains appellent cela un centurion. Mais c'est un chef dans l'armée romaine, un capitaine d'armée. Et à l'époque, le mot signifiait... chef d'une centaine, d'une cohorte de 100 soldats. Mais avec le temps, c'est devenu simplement un titre Mais probablement qu'il y avait beaucoup d'hommes à son service. Peut-être qu'il était à la retraite. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il vivait, il avait une maison à Capernaum. Il avait des gens à son service, il avait des amis, et il avait entre autres un serviteur qui lui était fidèle. Ça arrivait souvent, ça, que les chefs de l'armée romaine qui devaient se déplacer avaient des serviteurs qui les suivaient partout. Et lorsqu'ils élisaient domicile à un endroit, le serviteur vivait avec lui. Et ça, dans bien des cas, les historiens rapportent que ça donnait des amis très chers, comme un membre de la famille, comme un frère. Et ici, on voit que ce serviteur-là lui était très cher. Il était attaché à lui. Et il était très triste de voir qu'il était malade et il allait mourir. Mais il entend parler de Jésus. Je pense que c'est plus qu'il entend parler que Jésus arrive. C'est qu'il entend dire des choses à propos de Jésus. Peut-être que les gens lui ont rapporté les miracles que Jésus avait faits, son enseignement. Donc, il a des choses qu'il a comprises à propos de Jésus. Et ça explique son comportement. Et il demande aux anciens parmi les Juifs, donc on voit que le centenier était important, puisque ses amis étaient même parmi les anciens de la ville. Les anciens, c'est ceux qui dirigeaient la ville, comme le gouvernement municipal à l'époque. Et il les envoie vers Jésus pour leur demander que Jésus vienne à sa maison pour guérir son serviteur. Donc les anciens arrivent, et non seulement ils demandent Jésus d'accepter de répondre favorablement à la demande du centenier, mais même ils le supplient. On voit qu'ils avaient vraiment à cœur le sort de ce centenier, et qu'ils voulaient son bien parce qu'ils avaient trouvé leur faveur. Mais le ministère de Jésus est de manière visible auprès des Juifs, auprès des Israélites. C'est à eux qu'il s'adresse. C'est pour ça qu'il supplie Jésus. C'est comme s'il lui disait « Fais une exception ». On sait que le centenier n'est pas un Juif, ce n'est pas un Israélite. Mais fais une exception pour lui, c'est un homme bien, et même il aime notre nation. C'est même lui qui a bâti notre synagogue. En d'autres mots, c'est lui qui a sorti son portefeuille. C'est lui qui a payé pour la construction. Puis on comprend que ça arrivait parfois à l'époque que quelqu'un payait pour bâtir une synagogue juste pour acheter la paix, ou même parfois c'était pour se moquer de cela, mais on voit ici qu'il avait vraiment à cœur les Juifs. Donc, on peut comprendre qu'il avait un respect même pour la religion juive. Peut-être qu'il était ce qu'on appelle un craignant Dieu. Peut-être qu'il avait foi même dans le Dieu des Juifs. On ne sait pas, mais en tout cas, il avait compris qui était Jésus. Et selon eux, il est digne que Jésus aille chez lui et lui accorde ce qu'il demande. Il le mérite. Il est suffisamment digne. Même s'il n'est pas un Juif, il est quand même suffisamment digne pour que tu te déplaces. Mais Jésus accepte d'aller avec eux. À ce point-ci, si on avait lu seulement jusque-là, on pourrait se demander pourquoi le centenier ne prend pas la peine de se déplacer lui-même pour demander à Jésus de venir. On voit qu'il ne faut pas juger trop vite aux apparences. Ça pourrait sembler être un signe d'orgueil. Il est trop grand, lui, pour oser se déplacer vers Jésus. Mais on va voir que ce n'est pas son attitude. La suite montre au contraire, il est très humble. Et au point où, lorsqu'ils approchent de la maison, c'est comme si le centenier réalise, « Ah non, Jésus ne peut pas venir chez moi. » Et il envoie des amis pour aller auprès de Jésus avant qu'il vienne à sa maison pour lui dire, ne prends pas la peine, là. Ne prends pas toute cette peine de te déplacer, de venir dans un domicile d'un païen, parce que je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne même d'être dans ta présence. C'est pour ça que je ne me suis pas déplacé vers toi. Je ne me vois même pas digne simplement que tu me vois et que je t'adresse la parole. Et les paroles suivantes montrent pourquoi il est si humble face à Jésus. Ce n'est pas parce qu'il ne se sentait pas digne de parler à personne dans la population, là. Il avait des amis parmi les notables. Et il avait quand même une autorité où est-ce qu'il donnait des ordres à ses soldats. Mais face à Jésus, wow, là, il était très humble. Pourquoi cela? Mais on voit la manière dont il s'adresse à Jésus, ce qu'il croit en lui à propos de Jésus. Il croit en l'autorité de Jésus. Il croit en lui. Il dit, « Dis un simple mot et mon serviteur sera guéri. » Il est convaincu que si Jésus le veut, il peut tout faire, même sans se déplacer, à distance, même sans toucher le malade. Par la simple volonté, sa simple autorité, Jésus peut tout. Ça prend toute une compréhension profonde de l'identité de Jésus pour en venir à cette conclusion-là. Et c'est ce que Jésus accepte de faire. Il guérit le malade à distance, même sans le toucher. Même Luc ne prend même pas la peine de dire que Jésus guérit. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais les amis retournent à la maison et ils voient que le serviteur est guéri, il est en pleine santé. Il faut noter ici une petite parenthèse que lorsque le centenier envoie Jésus, envoie les anciens demander à Jésus de guérir son serviteur, ils ne savaient pas si Jésus allait accepter ou non. Ils ne savaient pas si Jésus allait dire oui, mais ils savaient que Jésus pouvait le faire. C'est ça une particularité de la vraie foi. Ce n'est pas dans un cas semblable où on demande la guérison à Dieu. On demande de nous guérir ou de guérir quelqu'un qui est proche de nous, qui souffre. La vraie foi, ce n'est pas d'être convaincu que Dieu va dire oui. La vraie foi, c'est d'être convaincu que Dieu peut tout. Il n'y a absolument aucun obstacle à ce que Dieu guérisse. Mais on va voir aussi que par humilité, la vraie foi, c'est qu'on remet cette décision-là à Dieu. On reconnaît son autorité, sa souveraineté. Mais la foi, c'est d'être sûr qu'il est capable et qu'il va prendre la meilleure décision, selon sa sagesse. Et Jésus, voyant cela, il rend témoignage à la foi du centenier. Il est lui-même étonné. Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est lui-même étonné de voir la foi du centenier. Et pour être sûr que les gens le voient, là, parce que peut-être les gens ne l'auraient pas noté, il se tourne vers la foule pour leur dire, « Même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. » Ça veut dire, même parmi les Juifs, même parmi vous, je n'ai pas vu une foi aussi grande. On comprend qu'il veut souligner la véritable foi. Qu'est-ce que c'est une foi exemplaire? En même temps, c'est une petite critique. Vous êtes d'accord avec moi? C'est eux, le peuple de Dieu, c'est eux qui ont accès aux Écritures, qui adorent Dieu dans la synagogue, qui suivent Jésus, et plusieurs d'entre eux sont ses disciples. Et le centenier, le païen, a une foi plus grande qu'eux. Donc, il a compris quelque chose qu'eux n'avaient pas encore compris. On peut se demander justement en quoi sa foi est si grande. Qu'est-ce qu'il a compris à propos de l'identité de Jésus de plus que les autres? En fait, ce qu'il a reconnu à propos de Jésus, c'est fondamental. Le texte ne donne pas beaucoup de détails. Hein. Est-ce qu'il savait d'où il était né? Est-ce qu'il était au courant des prophéties? Peut-être pas du tout. Mais ce qu'il savait à propos de Jésus était fondamental, c'est qu'il connaissait l'autorité de Jésus. Et c'est l'élément fondamental que Jésus enseigne et démontre dans tout son ministère, c'est son autorité. Avoir la foi en Jésus, pendant la période où Jésus était sur terre, c'était avoir la foi en l'autorité de Jésus. Reconnaître qu'il avait toute autorité, reconnaître qu'il est le Seigneur. Parce que Jésus n'avait pas encore tout révélé quel était son ministère sur la terre. Ici, le centurion ne savait pas, les Juifs non plus, que Jésus allait donner sa vie, mourir pour payer la dette des péchés. Ressusciter, être élevé à la droite de Dieu, et un jour même revenir juger la terre, refaire une terre où la justice habite. Il ne savait rien de tout ça. Mais avoir la foi pour suivre Jésus, c'était de reconnaître qui est Jésus, c'est-à-dire l'autorité suprême, le Tout-Puissant. Et ça, le centenier l'avait compris. Et même aujourd'hui, si on y pense, croire en Jésus, ça implique de croire en l'autorité de Jésus. Et l'Évangile dans Luc nous essaie de nous convaincre de cela. Depuis le début de son Évangile, on voit plusieurs actions qui démontrent l'autorité de Jésus. Par sa simple parole, il guérit des gens. Il l'avait déjà fait. Il prêche avec autorité. Il dit aux démons de quitter un homme qui est possédé, qui est démoniaque, et les démons s'enfuient devant sa face. C'est ça le message principal, là, c'est que Jésus est toute autorité, l'autorité divine. Et le centurion a cette foi-là. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Quels sont les indices qui nous montrent ça? Premièrement, il l'appelle Seigneur. Lorsqu'il envoie ses amis s'adresser à lui, il parle en son nom. C'est comme si c'était lui qui parlait directement à Jésus. Il dit, Seigneur, ne prends pas la peine. Ne prends pas tant de peine. On se rappelle qu'est-ce que Jésus a enseigné dans les dernières paroles de son sermon sur la montagne qu'on a vu la semaine passée. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de ceux qui l'appellent Seigneur? Il a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » En fait, ce n'est pas tout de reconnaître, de donner un titre Seigneur à Jésus. C'est dans son cœur de reconnaître qu'il est vraiment Seigneur, et s'il l'est vraiment, ça veut dire qu'on reconnaît son autorité, et on fait ce qu'il dit. On lui est soumis. Ici, on voit, mais le simple fait qu'il appelle Seigneur, ce n'est pas encore une preuve qu'il lui est soumis, mais on voit dans son attitude. il rend hommage à l'autorité de Jésus. Même pour montrer à quel point il comprend l'autorité de Jésus, son argument, c'est « Moi, je comprends la notion d'autorité. Je suis dans une armée. Et bien que je ne sois pas le plus haut gradé dans l'armée, je suis soumis moi-même à des autorités supérieures. Même si je ne suis pas le plus haut gradé, les gens qui me sont soumis, lorsque je leur donne un ordre, ils m'obéissent. Mon autorité est effective, même si je ne suis pas le plus grand. Donc, à plus forte raison, toi, Seigneur Jésus, c'est sûr que ce que tu vas commander va s'accomplir. » Donc, il est en train de dire, « Moi, je ne suis pas le plus haut gradé, mais je reconnais que toi, tu es le plus haut gradé. » Donc, si pour moi, mes ordres ont un effet positif, c'est sûr que toi, l'ordre que tu vas donner, si tu ordonnes à la maladie de partir, elle va partir. Il est en train de dire, tu as l'autorité sur tout. C'est impressionnant de voir comment il comprenait qui était Jésus. Pour lui, Jésus est le Tout-Puissant, celui qui a autorité même sur les choses invisibles, les choses qu'on n'a aucun contrôle. Et il démontre aussi par son humilité qu'il est sincère en appelant Jésus Seigneur. Il utilise les mêmes mots que les anciens lorsqu'ils parlaient de lui. Il est digne que tu ailles chez lui, lui offrir, lui venir en aide. Lui, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Il a vraiment compris. C'est un peu même prétentieux de la part des Juifs, parce qu'on ne veut pas aller trop loin, là, mais lorsqu'ils disent, il est digne que tu l'aides, eux, ils se placent plus haut que lui. Là. Nous, on est certainement dignes, là. Mais même lui, même s'il est païen, il est digne que tu l'aides. Mais on voit son attitude, lui, il reconnaît Jésus comme le Tout-Puissant. Il n'est certainement pas digne. Il ne mérite pas l'aide du Seigneur. Ça démontre encore comment il comprend qui est Jésus. Il comprend que c'est une pure grâce, un acte de bonté, si Jésus daigne accéder à sa requête. Dans le fond, est-ce qu'il existe vraiment un homme sur la terre qui est digne de recevoir le secours de Jésus? Aucun homme n'est digne. En fait, si on reconnaît vraiment l'autorité de Jésus, sa toute-puissance, on est forcé de reconnaître que tout ce qu'il nous donne, les moindres actions de bonté, bien, ça n'existe pas des moindres actions de la part de Jésus, mais toutes les occasions qu'il a, tout ce qu'il nous donne, toutes les façons dont il nous vient en aide, en secours, ce n'est que pure grâce. Par humilité, on doit comprendre cela. C'est une grâce et ça démontre le cœur de Jésus. Et Jésus accède à la requête du centenier par pure grâce, pour son bien. D'ailleurs, on comprend même, c'est vrai que Jésus n'était pas venu sur terre pour les païens. Il était venu pendant son ministère sur terre pour les Juifs. Mais il a compassion pour cet homme dans sa tristesse et il le secourt. Ça montre la compassion de Jésus et on le voit d'une manière encore plus évidente dans l'événement qui suit. Le lendemain, il se rend à la ville de Naïn. Et là, il y a une grande foule qui le suit. C'est sûr, après avoir eu connaissance du miracle qu'il vient de faire avec le centenier, là, il y avait déjà une foule qui le suivait, mais j'imagine que d'autres se sont ajoutés de Capernaum. Donc, il y a une foule de ses disciples. Il y a une autre foule de gens aussi qui le suivent, soit pour être guéri ou autre, pour recevoir, entendre son enseignement ou par curiosité. Ils arrivent en grande foule à Naïm, et là, comme ils arrivent à la porte de la ville, ils rencontrent une grande foule qui sort de la ville aussi. Là, c'est un cortège funéraire, cortège funèbre. Donc là, il y a comme deux grandes foules qui se rencontrent. On peut s'imaginer la scène. Et à l'époque, c'était très inconvenant d'interrompre un service funéraire. C'était même un péché aux yeux des Juifs, là. Lorsqu'il y avait un service funéraire, il ne fallait pas du tout interrompre ça. C'est quelque chose de sacré. Et Jésus arrive avec une foule. Comment il va réagir? Mais la réaction de Jésus, ce n'est pas les convenances. Sa réaction, c'est de se soucier du sort tragique de cette femme-là. Et il est ému de compassion. Il est triste pour elle. Sa situation est vraiment triste. Ça explique peut-être pourquoi il y a une grande foule qui suit le cortège. Elle perd son fils unique. Moi, je ne suis pas une maman, là, mais je peux juste essayer de m'imaginer qu'est-ce que c'est pour une mère de perdre son seul enfant. Il meurt. Je ne sais pas si on peut s'imaginer une douleur plus grave. C'est triste. Là. L'enfant que tu as mis au monde, que tu as vu grandir, meurt. Et en plus, ce qui ajoute à sa douleur, c'est qu'elle est veuve. Ça veut dire que dans les années précédentes, elle a perdu son mari. Elle était déjà dans une situation précaire. Son fils, je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais c'était le seul qui pouvait subvenir à ses besoins. Là, il meurt, elle se retrouve seule. Et à l'époque, être une veuve, c'était vraiment une situation critique. C'est très difficile de se trouver un travail juste pour subvenir à ses besoins. juste pour survivre. On voit l'histoire de lorsque Jésus voit la veuve qui donne 2 sous en offrande parce que c'est tout ce qu'elle a. Mais c'était normal. Les veuves n'avaient pas d'argent. Donc, elle se trouvait finalement qu'elle allait dans cette situation tragique-là. Et même sa lignée disparaissait. Avec elle, le nom de son mari s'éteignait. Et son nom. Mais Jésus est poussé par un élan de compassion. Il va vers elle et lui adresse la parole. « Ne pleure pas. » Voilà, la foule devait se demander qu'est-ce qu'il va faire. Et il s'approche du cercueil. Il touche le cercueil même. Encore une chose qui est très inconvenante. Parce que toucher à un mort, parce que c'était un cercueil qui était ouvert, là, toucher à un cadavre, automatiquement, tu devenais impur. Ça ne se faisait pas. Là. Mais Jésus touche le mort, les porteurs s'arrêtent. Probablement que toute la ville, toute la foule s'est arrêtée aussi pour voir ce que Jésus allait faire. Et il parle aux morts. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi! » Et chose qui est complètement impossible, le mort entend. Et il se lève. Tous sont saisis de crainte. C'est sûr que ça doit être épeurant. En lisant ça, je me suis souvenu d'une histoire que mon grand-père m'a racontée. Il était dans un service funéraire dans une église catholique. Et ils avaient trouvé un cadavre mort dans une chaise en position assise. Et il était pris d'un spasme musculaire. En tout cas, il était raide. Et pour le faire entrer dans le cercueil, ils l'ont attaché les jambes et ils ont attaché le dos pour le déplier. Mais pendant le service, ce qui devait arriver est arrivé. La tâche qui tenait le dos a lâché et le mort s'est assis. Tout le monde sont sortis de l'église en courant. Moi-même, je pense que je serais sorti. Mais lorsqu'on est confronté à quelque chose de surnaturel, c'est sûr que c'était épeurant. Là. Toutes les histoires de fantômes, c'est parmi les plus terrifiantes. Donc, eux, ils ont dû avoir la frousse de leur vie. Mais on se rend compte que la crainte n'était pas seulement une peur du surnaturel. C'était une crainte de Dieu. Là, c'était le pouvoir divin qui venait de s'accomplir. Ce n'était pas juste le pouvoir d'un magicien, le pouvoir d'un sorcier, d'un prophète. C'était le pouvoir de Dieu qui a le pouvoir de vie ou de mort. Dieu qui rappelle l'âme à lui lorsqu'un être humain meurt. Il l'a redonné à ce jeune homme. Et ils ont été témoins de cela. C'est sûr que là, ils se sont agenouillés devant Dieu. La réaction normale, c'est de craindre ce Dieu Tout-Puissant. Et ils ont glorifié Dieu. C'est intéressant, c'est Jésus qui a fait le miracle, mais il glorifie Dieu. Automatiquement, ils ont fait le lien. Jésus a accompli un miracle divin. Le miracle que Jésus a fait, c'est Dieu qui l'a fait. C'est la présence de Dieu sur terre. Ils ne comprenaient pas tout parce qu'ils ont appelé Jésus simplement un prophète. Mais ils ont quand même reconnu que c'était un grand prophète. Comme on lit dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée ont ressuscité des hommes. Bon, Jésus est du calibre de ces grands prophètes-là. Il glorifie Dieu. Il dit, waouh, Dieu a visité son peuple. Dieu est venu, il est intervenu dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment historique. Donc, il glorifiait Dieu. Il reste à voir s'ils vont écouter ce grand prophète. Mais on sait qu'il n'est pas seulement qu'un prophète, il est le Christ. Pourtant, ils auraient peut-être dû arriver à cette conclusion parce que tous ces gens-là ont été d'abord évangélisés par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait prêché dans tout le royaume de la Judée, dans Israël, et les gens étaient venus. On sait que son message a été connu de tous, et la plupart de ceux qui ont été touchés se sont fait baptiser parce qu'ils se repentaient de leurs péchés, parce qu'ils savaient que le Christ s'en venait. Pourquoi ils n'ont pas fait le lien, là? C'est lui, le Christ. Il faut croire qu'il y a des choses que ce n'était pas évident. Et on comprend que ce n'était pas évident parce que même Jean-Baptiste est perplexe. La réputation de Jésus se répand jusqu'à la prison où est enfermé Jean-Baptiste, parce qu'on se souvient que Hérode a fait enfermer Jean-Baptiste en prison. Mais les disciples vont rapporter à Jean-Baptiste ce qui est arrivé. Ils parlent de Jésus, de tout ce qu'il a fait. Donc, ils lui font un rapport. Sûrement qu'ils lui ont mentionné son enseignement, ce que Jésus enseignait, qu'est-ce qu'il disait aux foules, ce qu'il faisait, tous les miracles, il guérissait les gens, sa compassion envers les gens aussi. Mais en apprenant cela, Jean est perplexe. Il y a des doutes. Il se demande, oh, est-ce que c'est vraiment lui, le Christ? J'ai enseigné que le Christ venait, je sais que lui, c'est l'agneau de Dieu, mais est-ce que c'est lui ou bien est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent venir? D'où lui vient cette interrogation-là? Mais on se souvient de qu'est-ce que Jean-Baptiste a annoncé. Dans le chapitre 3, versets 16 et 17, il dit « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, la venue du Messie devait apporter le Saint-Esprit aux foules qui s'étaient repenties. Et de feu, c'est-à-dire un feu purificateur. Donc, qui sert à purifier ceux qui se sont repentis, mais qui sert en même temps à purifier la terre des méchants. Donc, une action de jugement. Il dit, il a son vent à la main et il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, Jean, lui, il voyait la venue de Jésus. Et c'est vrai ce que Jean a enseigné. Mais il croyait que ça allait tout s'accomplir maintenant, à la première venue de Jésus. Jésus allait venir et apporter le jugement. Et comment ça se concrétise, ça, le jugement? C'est la libération de l'oppression romaine. La libération du peuple de Dieu, du peuple juif qui s'est repenti, qui est purifié de ses péchés, qui redevient le peuple saint de Dieu et qui est libéré de tous ses ennemis. C'est ça à quoi que toute la population s'attendait. Et on comprend que probablement Jean-Baptiste aussi s'attendait à cela. Et il se demande, est-ce que c'est vraiment Jésus? Jésus enseigne, on l'a vu dans le sermon sur la montagne, à aimer même son ennemi. Wow, ça veut dire qu'il enseigne au peuple qu'il faut aimer même les Romains. Même à prier pour eux, à persévérer même dans la souffrance qu'ils nous font subir. Là, Jean apprend qu'il est venu en aide à un centurion romain. Et il apprend même qu'il a interrompu un service funéraire, il a touché un mort. Il a de quoi se poser des questions. Donc, il envoie deux de ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Es-tu juste un précurseur du Christ? Es-tu celui qui fait une partie du travail? Est-ce qu'on doit en attendre un autre? » Et avant de répondre à ceux que Jean-Baptiste a envoyés, peut-être que c'était... c'est Jésus qui l'a voulu, mais peut-être qu'il y avait des gens, justement, qui se pressaient autour de lui pour être guéris. Mais avant de leur répondre devant eux, il guérit beaucoup de malades, d'infirmes. Il chasse des démons, il les libère de leur oppression démoniaque. Il rend la vue à plusieurs aveugles. Donc, il fait des miracles devant eux, par compassion. Il montre la puissance de Dieu à l'œuvre par son amour. Ensuite, il s'adresse à eux, il leur dit... Il ne leur dit pas « Allez dire à Jean, oui, je suis vraiment celui. » Il leur dit « Allez lui dire ce que vous avez vu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ça devait faire un déclic là, dans l'esprit de Jean, parce que ce sont tous des éléments de l'action du Christ que Ésaïe avait prophétisé. Lorsqu'on lit les prophéties d'Ésaïe qui parlent de la venue du Christ, Christ devait faire cela. Donc, au lieu de mettre en question le plan que Jésus suit, qui est le plan que Dieu le Père lui a ordonné, lui a donné, mais Jean devait plutôt regarder combien Jésus manifeste les qualités de Dieu. On sait que Jésus sur terre nous révèle qui est Dieu, son caractère. Premièrement, il nous révèle toute l'autorité de Dieu. Si on demande si Dieu a vraiment une autorité sur ce qui se passe, ben oui, et Jésus en est la démonstration. Il démontre la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance même sur la mort. Et il démontre un autre trait très important à savoir à propos de Dieu, son amour, sa compassion. Des fois, on pense que Dieu, le Père, est sévère, puis Jésus, lui, il nous aime. Non, Jésus manifeste les qualités de Dieu. Ils ont le même cœur. Dieu est un Dieu plein d'amour. Donc, Jean-Baptiste, en voyant les manifestations divines en Jésus, il devait venir en évidence que c'est le Christ. C'est l'Éternel, c'est Emmanuel, c'est Dieu le Fils. Ensuite, Jésus ajoute une dernière parole. On ne sait pas s'il s'adresse aux disciples de Jean-Baptiste avant qu'il s'en aille ou s'il s'adresse à la foule. En tout cas, il s'adresse à nous. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comment il peut être une occasion de chute? Mais on voit que déjà, il semait le doute à cause de ce qu'il faisait. Mais ça va continuer. Et Jésus, pour exercer son ministère dans son plan, il va même montrer qu'il est prêt à souffrir, à supporter la souffrance, l'humiliation, le mépris, le rejet, l'incompréhension. Il va même être accusé de faire tous ces gestes de bonté pour servir Satan. Il va même être rejeté par son peuple et même éventuellement mourir. C'est sûr que pour les gens qui le regardent, s'ils se demandent s'il est vraiment le Christ et qu'ils doutent de cela, Jésus, par son ministère, va être une occasion pour eux de tomber, de chuter, de rejeter Dieu et son plan en n'acceptant pas Jésus. Mais heureux ceux pour qui son ministère ne sera pas un obstacle à croire en lui. Donc, le premier événement qu'on a vu, la guérison du serviteur du centenier ou du centurion, ça souligne quoi? Ça souligne l'autorité de Jésus. Sa toute autorité, l'ordre qu'il est à la tête. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui a la puissance même pour guérir à distance. Et la foi du centurion, elle est exemplaire, même pour nous. Et on peut s'arrêter un instant pour réfléchir. Est-ce qu'on a cette foi semblable à la sienne? Est-ce qu'on croit en un Jésus qu'on a intellectuel? On croit à certaines doctrines à propos de Jésus ou on est vraiment conscient de son autorité? Est-ce que vous croyez que Jésus a l'autorité sur la mort? Est-ce que vous croyez réellement, sincèrement, qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, que présentement il est au ciel? Même qu'il a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous croyez cela? Croyez-vous qu'il est présent même parmi nous en ce moment? Parce que son autorité défie même les lois de la physique, ou défie même ce qu'on pourrait imaginer. Croyez-vous qu'il a l'autorité sur Satan, sur les démons, sur les anges? Croyez-vous qu'il a l'autorité sur tout l'univers? Si oui, bien notre foi en réalité se mesure à notre degré de compréhension de l'autorité de Jésus. Si on a une grande foi, on va vraiment comprendre à quel point Jésus a une autorité et ça va se voir dans notre attitude, dans notre comportement. On va être comme le centurion, comme le centenier, soumis, humble face à Jésus. On va vouloir lui obéir. Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », mais s'ils ne font pas ce que Jésus commande, en réalité, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas à son autorité. C'est un élément essentiel de la foi. Le deuxième événement qu'on a vu montre un autre aspect à propos de Jésus. Premièrement, sa compassion, son amour. Et ça, avec les années, on peut finir par en douter, surtout quand on souffre. On se demande, est-ce que Jésus nous aime vraiment? La foi en Jésus, c'est de ne pas douter de cela. On l'a chanté tantôt, une vie sans peur, entre autres, sans peur d'être abandonné par Jésus. On croit, on ne doute pas en son amour. On croit qu'il nous aime. Croyez-vous qu'il vous aime vraiment, Jésus? Il a donné sa vie pour vous. Il était prêt à mourir. Et je suis sûr qu'il nous connaissait tous à l'avance. Il est mort pour nous. Nous qui ne sommes même pas dignes d'être dans sa présence. Ensuite, il a démontré sa toute-puissance. Même sa simple parole ressuscite un mort. C'est la toute-puissance de Dieu pour donner la vie et la reprendre. Donc, toutes les œuvres de Jésus témoignent de qui il est. Il est le Christ, Dieu le Fils. Et si Jésus rappelle toutes ces œuvres-là à Jean-Baptiste, c'est pour qu'il croie. Vois ce que je fais, vois ce que je dis, et crois. Et Luc même nous raconte toutes ces choses dans son évangile pour qu'on croie. Face aux œuvres de Jésus, on doit croire qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. Il est Dieu sur terre. Même s'il souffre, même s'il est rejeté, même s'il finit par être crucifié. Et pour certains, c'est un obstacle à croire. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, 23-24. Nous prêchons Christ crucifié. Christ qui a été mis à mort par son propre peuple. Mais c'est lui que nous prêchons. C'est un scandale pour les Juifs d'entendre ça. Et c'est une folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, autant les Juifs que les Grecs, c'est Christ, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu en personne. Pour d'autres, ils doutent en voyant tout le mal qu'il y a dans le monde. Est-ce que Jésus qui aime existe réellement? Est-ce que Dieu le Père qui aime existe réellement en voyant tout le mal qu'il y a dans le monde? On va soit douter de sa puissance pour intervenir, pour régler ce problème, ou on va douter de sa justice, est-ce qu'il est vraiment juste? Pourquoi il ne juge pas tout de suite les méchants sur la terre? Pourquoi, si vraiment il aime ceux qui souffrent, pourquoi il ne vient pas tout de suite les libérer, aider tous les opprimés sur la terre? Ça peut être un obstacle même à la foi de plusieurs de voir cela. Si c'est vrai que Jésus va apporter un règne de justice, comme Jean-Baptiste l'a annoncé, pourquoi il ne le fait pas maintenant? Et en conclusion, on va lire les paroles de Pierre dans 2 Pierre 3, 9 à 15. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc même la patience présente de Jésus est une démonstration de son amour, de sa compassion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache et sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen.